Ça me fait grand plaisir d'être parmi vous. Je sais bien que tous les prédicateurs de passage y disent ça, mais c'est vrai quand même, surtout que ça me donne l'occasion de revoir Didou. C'est comme ça que son cercle d'amis l'appelle. Je vois que vous êtes tous dans la joie, alors je vais être un petit peu rabat-joie, encore que... On peut avoir le cœur en joie tout en étant dans la tristesse. Qui est-ce qui a dit ça? Dans la Bible, quelqu'un a dit ça? Dans le livre de l'Ecclésiaste, un livre que j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Et avec vous, je voudrais partager la dernière partie. C'est un livre qui est parfait pour une civilisation athée dans laquelle nous vivons. Alors, à partir du chapitre 11, commence vraiment la partie la plus cinglante du livre. « Douce est la lumière », verset 7 du chapitre 12. « Et il est bon de voir le soleil ». Pour ça, tout le monde est d'accord. « C'est pourquoi, si l'homme vit de nombreuses années, qu'il les passe toutes dans la joie, mais qu'il n'oublie pas que les jours de ténèbres seront nombreux. » Tout ce qui est à venir est dérisoire. Merci pour la douche froide. C'est la septième fois dans ce passage, la septième fois dans le livre de l'Ecclésiaste, que le prédicateur, puisque c'est son nom en français, revient sur le thème de la jouissance de la vie. Il nous exhorte donc ici à profiter des plaisirs simples, de la vie quotidienne, ne serait-ce que la lumière du jour, tant qu'on le peut, avant que la vieillesse et son cortège de difficultés ne fassent son œuvre pour finir par la mort. Hein, il y a de quoi vous remettre sur les rails de la tristesse. Le prédicateur n'est pas très réjouissant, j'en conviens, mais il est réaliste, vous savez très bien. Il dit les choses telles qu'elles sont. Il y a un temps pour tout, mais il sait aussi que l'homme qui fait un joyeux usage de la vie sous le regard de Dieu est celui qui ira des ténèbres du séjour des morts à la lumière de la vie. La philosophie épicurienne du premier siècle, carpe diem, dit par le poète latin Horace, cueille le jour, c'est-à-dire profiter du temps présent ou cueillir les roses de la vie, est un conseil qui n'est pas très éloigné du prédicateur et de l'apôtre Paul, de son exhortation qui dit « rachetez le temps ». Verset 9. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse ». Il y a beaucoup de jeunes ici. D'ailleurs, chaque fois que je... Au fur et à mesure que le temps passe, je trouve que les gens rajeunissent. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse. Suis donc les élans de ton cœur et tout ce qui te fait plaisir. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. Bannis le chagrin de ton cœur, écarte la souffrance, car la jeunesse, comme l'aurore, passe bien vite. Versets 9 et 10. Le prédicateur exhorte les jeunes de profiter de la vie et de ses plaisirs. C'est vrai. Avant que le poids des ans et l'usure du temps ne se fassent sentir. Mais il y a un gros mais. Profiter de la vie, oui. Mais à l'intérieur d'un cadre précis. Ce n'est pas une existence dissolue que le prédicateur recommande, car les jeunes doivent tenir compte du fait qu'ils seront jugés comme leurs anciens par Dieu sur la façon dont ils auront vécu. Les grandes décisions qui affectent le cours de notre existence, à vous et à moi, sont souvent prises quand on est relativement jeune. Et combien jettent alors leur vie à la poubelle, pour ainsi dire, parce qu'ils font les mauvais choix. La vie est un don précieux que Dieu nous donne jour après jour, ou plutôt même instant après instant, et le meilleur usage qu'on puisse en faire, vous et moi, c'est de contribuer à la gloire de Dieu. Ce n'est pas une rengaine ce que je dis, car contribuer à la gloire de Dieu est le but pour lequel chacun de nous avons été créés. Glorifier Dieu et jouir de sa personne pour l'éternité, c'est la raison de ma création et de ta création. Verset 1 du chapitre 12. « Tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse, avant que ne viennent les jours mauvais et les années dont tu diras, « Je n'y prends pas plaisir. » Comme il n'y a rien sur terre qui puisse pleinement satisfaire le cœur humain, et que Dieu nous a donné la vie et créé pour lui-même, le mieux que nous avons à faire est de le révérer, de lui obéir et de le servir. À partir d'ici, à partir du chapitre 12, le prédicateur fait une longue et admirable description de la vieillesse et de la mort. Jusqu'à la mort. Ce passage est plutôt lugubre, mais universellement reconnu comme admirable. Il constitue l'un des sommets poétiques des Écritures saintes. Les propos du prédicateur sont brutaux. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il dit que pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, la fin de vie est cruelle, car faite de jours mauvais dépourvus d'agrément, remplis de privations et d'infirmités, auxquels seule la mort met finalement un terme. Une majorité de gens âgés ne prend plus plaisir à la vie et en est même dégoûtée. C'était le cas de mon père, c'est maintenant le cas de ma mère, au point de désirer la mort. Ma belle-mère désire la mort et ma mère désire la mort. À cause de leur infirmité physique et à cause de leur souffrance morale. Verset 2. Tiens compte de ton Créateur avant que s'obscurcisse le soleil, la lumière et que la lune et les étoiles ne perdent leur éclat et que les nuages reparaissent sitôt après la pluie. L'homme est un être qui appartient au temps. Sa fin et sa qualité de créature s'affirment immanquablement dans sa décrépitude et dans sa mort. La sagesse élémentaire consiste donc à tenir compte de cet ultime horizon, la souffrance et la mort, dans sa façon de vivre présente et dans sa façon de mener sa barque. La perspective de la vieillesse et de la mort conduit le prédicateur, cependant, non pas à dire « Souviens-toi qu'il te faut mourir, memento mori », mais à « Souviens-toi de ton Créateur ». Ce qui distingue franchement le prédicateur des Écritures, des épicuriens, des sceptiques et des cyniques, c'est toutes des philosophies du 1er siècle et même avant, avec lesquelles on l'a confondu. Au lieu de se focaliser sur « souviens-toi que tu vas mourir », c'est « souviens-toi de ton Créateur ». Et pour une vieille personne, toujours dans ce passage que je viens de lire, ce n'est pas l'éclat des astres qui change ou qui a changé avec les années, mais sa disposition d'esprit. Il est dans un état semi-déprimé, je parle des vieux en général, surtout ceux qui ne sont pas chrétiens. Il est dans un état semi-déprimé à cause de ses misères qui n'en finissent jamais et qui sont comme des orages qui se succèdent. Alors il voit tout en gris, précurseur des ténèbres et de la mort. Je suis brutal, mais je ne fais que suivre le texte du prédicateur qui est brutal. Bon, je ne suis encore pas tout à fait à ce stade, mais je sais très bien que les meilleures années, mes meilleures années sont derrière moi. La jeunesse a des ondées, certes, mais elles sont suivies de belles journées ensoleillées. Tandis que pour les personnes âgées, la plupart d'entre elles, c'est presque toujours l'hiver avec un ciel nuageux qui donne de la pluie et qui fait place à de nouveaux nuages et à de nouveaux orages. Verset 3. C'est l'époque où tremblent les gardes du palais et où fléchissent les hommes vigoureux, où les servantes du moulin cessent de moudre, étant trop peu nombreuses, où les guetteurs derrière les treillis se voilent. Qu'est-ce que ça veut dire? Verset 3. À partir d'ici, le prédicateur décrit de manière imagée le délabrement et la dégradation due à la vieillesse. Le corps est comparé à un palais. On voit aussi ça dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Un palais qui tombe en ruine. Les gardiens sont les bras et les mains qui servent à se défendre contre un agresseur, mais maintenant, non seulement ils ont perdu leur vigueur, mais ils tremblent, un signe de détérioration neurologique. J'ai vu mon père comme ça, alors qu'il n'avait pas la maladie de Parkinson, mais au fur et à mesure qu'il vieillissait, il tremblait davantage. Et je l'ai vu quand il avait le plus grand mal à manger. Et ça fait quelque chose de voir comme ça ses parents. Les hommes vigoureux sont les jambes qui nous supportent, et dans la vieillesse, ils titubent car les muscles sont atrophiés. Les vieillards traînent plus les pieds qu'ils ne les soulèvent, et même quand ils s'appuient sur une canne. À 93 ans, ma mère se déplace comme ça alors qu'il y a seulement 10 ans. Il y a seulement 10 ans, quand on partait faire une marche, j'avais de la peine à la suivre et je n'exagère pas. Les servantes du moulin ou meunières sont les dents et elles se font de plus en plus rares. Les appareils dentaires, ça existe, mais c'est loin de remplacer ce que Dieu nous a donné. Les bons steaks saignants, c'est pour les jeunes, alors qu'il faut du hachis aux vieilles personnes. Mon grand-père disait, bon, il faut que je me rappelle. Wenn man hat zehn, man hat ke Haselnuss. Wenn man Haselnuss hat, hat man ke zehn. Qui c'est qui a compris? C'est de l'allemand réduit. En fait, c'est de l'alsacien. Et c'est vrai, quand on a des dents, on n'a pas de noisettes, et quand on a des noisettes, on n'a plus de dents. Bon, je n'en suis pas encore là, mais j'ai déjà perdu un certain nombre de meunières, et celles qui me restent sont toutes rafistolées avec un plombage ici et une couronne par là. Les guetteurs qui se voilent derrière les treillis sont les yeux, dont l'acuité décline derrière les paupières et les cils. En effet, il y a peu de personnes âgées qui ont bon pied, bon œil. Et il n'y a pas que la vue qui baisse et se détériore, mais aussi la mémoire et les facultés mentales. Encore qu'il n'y a pas nécessairement, il n'est pas nécessairement besoin d'être âgé pour ça. Ça m'arrive encore assez souvent que quelqu'un me dit « Salut Jacques, je suis content de te revoir ». Alors je le regarde avec un grand sourire et je lui dis « Ah, salut !» Et puis je me dis « Mais qui c'est ? Je me souviens de l'avoir vu quelque part, mais où ?» Verset 4. « C'est le temps où les deux battants de porte se ferment sur la rue, où le bruit de la meule baisse et s'éteint, où le cri d'un oisillon suffit pour chasser le sommeil, » où s'affaiblissent les filles du champ. Les deux battants de porte sont les oreilles qui donnent aux vieillards l'impression de se fermer parce qu'ils n'entendent plus distinctement les sons familiers comme le bruit du moulin ménager broyant le blé. C'est de cela dont il est question dans ce passage, le moulin ménager. Quand nos enfants sont avec nous, ils trouvent toujours que nous mettons la télé trop fort. Ce qui doit vouloir dire que nous devenons durs de la feuille. De nos jours, nous avons des appareils auditifs très performants, hein, grâce à l'électronique, à l'informatique, mais au dire de ma mère, encore elle, ce sont de piètres pis-aller. Ils fonctionnent très mal au téléphone et dès qu'il y a un bruit de fond, on ne distingue plus les mots. Ces ersatz ne peuvent en aucune manière remplacer l'ouïe que Dieu nous a donnée. Et puis un jour, j'ai lu comment fonctionne l'oreille et ça m'a époustouflé. Et puisque c'est moi qui parle, vous allez être obligés d'entendre, d'écouter ce que j'ai à dire. L'oreille externe capte l'onde d'un son qu'elle dirige dans le canal auditif où il fait vibrer la membrane du tympan comme un tambour. Bon, jusque-là, on comprend, parce qu'il joue du tambour ici, on peut comprendre. Et là, après, ça devient un petit peu plus délicat. Après, derrière le tympan se trouvent trois petits os, pourquoi pas deux et pourquoi pas quatre, parce que trois, ça marche mieux. Voilà. Alors, ces trois petits os, ils amplifient la pression exercée par l'onde, et ils la transmettent à l'oreille interne qui est remplie d'un fluide. Là, dans ce fluide baignent des milliers de poils microscopiques qui se comportent comme des diapasons de longueur différentes et de flexibilité différentes. Non seulement ils sont de longueur, mais aussi de flexibilité différente. C'est très complexe. Ces poils résonnent alors sur la même fréquence que l'onde du son reçu et le traduisent en une impulsion électrique que le nerf auditif transmet au cortex cérébral, où il est décodé et qu'on peut comprendre si on connaît la langue. Faut le faire, hein. Ça y est, j'ai fini. Chez une personne âgée, évidemment, ce mécanisme sophistiqué fonctionne très mal, car les signaux se perdent en route. Par contre, le chant d'un oiseau, dont il est question dans le passage, suffit à la réveiller au lever du jour. Ça, c'est déjà mon cas. En fait, même le carillon de notre horloge me dérange, et quand je suis dans un village, les cloches qui sonnent toutes les demi-heures, ça me gêne aussi, il faut que je ferme les volets. C'est dommage. Les filles du chant, dont il est question dans le passage, ce sont les cordes vocales. Les personnes âgées ne peuvent plus guère chanter comme elles le faisaient quand elles étaient plus jeunes, parce que leur voix crisse comme une craie sur un tableau. Et puis en plus, ils n'ont plus le souffle qu'ils avaient autrefois. Verset 5, c'est le temps où l'on redoute la moindre pente et où on a peur en chemin. L'amandière fleurit, la sauterelle devient pesante. La capre même demeure sans effet, car l'homme va rejoindre sa demeure éternelle et déjà les pleureuses s'assemblent dans les rues. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas lu l'Ecclésiaste ? Je me rends compte que ça fait longtemps. Le vieillard redoute la moindre pente parce qu'il n'a plus le sens de l'équilibre. Là encore, ma mère est tombée il y a 8 semaines à cause de ça. Elle vient juste de sortir de maison de repos. Et il s'épuise facilement. Comme sa démarche est mal assurée, il a peur de tomber, de se casser un membre et de ne plus pouvoir se relever, ou bien d'être attaqué par des voyous, c'est ce que dit le passage ici. Une personne âgée qui voyage veut que tout soit prévu d'avance, car la moindre contrariété, elle devient agitée. Voyez, un signe de vieillesse. L'amandier à fleuri est une allusion aux cheveux blancs. Au printemps, les amandiers en fleurs se voient de très loin parce qu'ils sont blancs comme neige. Quand nous habitions à Montpellier, il y avait beaucoup d'amandiers, d'ailleurs des amandiers qui avaient été abandonnés et qu'on pouvait aller chercher des amandes, qui voulait. Et ça se voyait de très très loin. C'était comme de la neige. Et donc c'est vrai ce qu'il dit là. La sauterelle pesante. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Représente un corps qui devient lourd à porter. Quand j'étais enfant, avant d'aller avec mon père pêcher le chevesne, j'allais dans les prés attraper des sauterelles qui servaient d'appât. Eh bien, c'était pas facile parce que ça saute sans arrêt, dans tous les sens. Par contre, une vieille personne, comme je l'ai déjà dit, se traîne péniblement. D'ailleurs, tout devient plus difficile. Autant mes parents aimaient bien nous recevoir avec nos enfants quand nous allions chez eux, autant ils étaient contents qu'on parte parce qu'ils n'avaient plus le dynamisme et la patience de leur jeunesse. Pourquoi est-il question du câpre ici? Parce que le câpre est un bouton à fleurs qui, confit dans le vinaigre, sert de condiment. Alors je me suis posé la question, pourquoi il ne parle pas du sel? Parce que les vieilles personnes, hein, le sel, ça y va. Parce que le sel, c'était une denrée très chère. Donc au lieu d'utiliser du sel, ils utilisaient du câpre. Mais même le câpre ou le sel, ça finit par plus avoir d'effet, car les facultés sensorielles s'effritent toujours avec le temps. Le déclin des forces physiques est irréversible et se poursuit jusqu'à ce que la personne décède. Alors, dans l'Antiquité, on faisait appel à des pleureuses professionnelles pour marquer le deuil, tandis que le défunt est maintenant dans le Shéol, le séjour des morts. Oui, tiens compte de Dieu avant que ne se détache le fil d'argent, que ne se brise la coupe d'or, et que la jarre ne se rompe à la source, que la roue se casse au puits. Verset 6. Vous avez là quatre images qui représentent quelque chose qui se rompt, une destruction, la destruction que produit la séparation du corps et de l'âme, ou du corps et de l'esprit. Tiens compte de Dieu avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle en est venue, avant que le souffle de vie ne retourne à Dieu qui l'a donné. Verset 7. Retour à la case départ. L'homme créé de poussière retourne à son origine, le corps à la poussière et l'esprit à Dieu. Dans le livre de la Genèse, et dans un psaume, on lit « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Tu leur ôtes le souffle, ça c'est dans le psaume, les voilà qui expirent, redevenant poussière. » Tout ce qui est vivant, plantes, animaux, hommes, a été tiré de la terre. Dieu a dit à Adam « C'est avec beaucoup de peine que tu tireras du sol ta nourriture tout au long de ta vie, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » À la mort, l'âme retourne à Dieu. Elle continue à être, mais en dehors du temps, en dehors du corps, qui lui dort dans la poussière jusqu'à la résurrection des justes ou la résurrection des injustes. Deux résurrections différentes. Parfois, je vais dans un vieux cimetière et je lis les noms sur les pierres tombales. Je me demande alors si l'âme de cette personne est auprès de Dieu. Certains symboles religieux indique clairement sa croyance, et quand c'est autre chose qu'une simple croix, c'est de mauvais augure. Encore qu'on ne peut jamais en être certain. Qui sait ce qui se passe dans les derniers instants de la vie? Peut-être que sur son lit de mort, cette personne se souvient avoir entendu que Jésus pardonne les péchés et donne la vie éternelle. Qui sait? Mais pour nous, comme Paul l'écrit aux Corinthiens, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Verset 8, chapitre 12. Vanité des vanités, dit le prédicateur, oui, tout est dérisoire. Après avoir réduit en rien, en 11 chapitres, tout ce qui est terrestre, le prédicateur s'assoit sur ce tas de poussière de la vanitas vanitatum. Les expériences et les argumentations du prédicateur tournent en un cercle vicieux. La thèse exposée au tout début du livre et répétée tout au long de sa réflexion est reprise en conclusion. Il n'a fait que tourner en rond. Vanité des vanités, tout est dérisoire. Tout ce qui est sous le soleil est vain. La sagesse et les efforts de l'homme sont vains. Les misères que le prédicateur a déplorées rendent la vie futile. Mais, ici encore, il y a un grand mais. Tout n'est pas aussi noir qu'il y paraît, puisque le prédicateur a aussi affirmé que la vie est belle et qu'elle vaut la peine d'être vécue. Ces deux vérités, en parallèle, forment une antinomie. Elles enseignent comment bien mener sa barque pendant cette existence que Dieu nous donne sous le soleil. Nous devons profiter des instants de bonheur qu'il nous accorde, et nous en avons, profitons-en, tout en le révérant, car nous lui devons une crainte respectueuse. Par contre, celui qui ne vit que pour lui-même, sans tenir compte de Dieu, mène une vie absurde, et à la fin de son passage sur terre, il entre dans l'éternité avec une poignée de cendres dans la main. Dans le psaume 90, c'est Moïse qui dit « Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. » Et quelqu'un d'autre a dit « Quand j'étais enfant, je riais et pleurais, et le temps se traînait. Quand j'étais jeune, je rêvais et parlais, et le temps marchait. » Quand j'étais adulte, le temps courait. Une fois vieux, le temps s'est mis à fuir. Et bientôt pour moi, il va finir. Non seulement, versets 9 et 10, non seulement le prédicateur fut un sage, mais il a enseigné la science au peuple. Il a pesé, examiné et mis en forme un grand nombre de proverbes. Il s'est efforcé de trouver des paroles agréables et d'écrire avec justesse des vérités. Ici commence l'épilogue du livre. C'est une sorte de post-scriptum éditorial où l'auteur fait valoir ses compétences. Les paroles de ce livre ont été soigneusement pensées. Elles sont vraies dans le fond et elles sont agréables dans leur forme parce que c'est de la très haute poésie. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et les recueils de leurs sentences ressemblent à des clous bien plantés. Elles émanent toutes d'un seul et même berger. Que mon disciple n'y ajoute rien, on peut multiplier les livres sans fin et le corps se fatigue à force d'études. Versets 11 et 12. Les paroles en aiguillon sont des préceptes bien acérés qui ont leur dard et qui donc pénètrent dans le cœur des auditeurs. Elles interpellent et stimulent la réflexion. C'est le but de ce livre. Les clous bien plantés sont des sentences qui restent solidement ancrées dans l'intelligence. Les uns et les autres sont des jalons qui balisent le chemin et des barrières qui marquent les limites pour l'homme à ne pas franchir. Il est aussi question du berger. L'Éternel est le berger de son peuple qui inspire les auteurs sacrés et donc l'Ecclésiaste, le prédicateur. Les paroles des sages sont tout ce dont nous avons besoin pour mener à bien notre vie ici-bas et notre âme à bon port. Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. C'est formidable comme livre. La vanité de toute chose sous le soleil est le fil conducteur de tout le livre l'Ecclésiaste. Mais à mesure qu'on avance dans le livre, l'horizon s'éclaircit. L'épais brouillard du début, parce qu'au début c'est vraiment déprimant. L'épais brouillard du début se dissipe peu à peu et le soleil se laisse pressentir. Après avoir été totalement ignoré, Dieu apparaît et s'impose toujours davantage à l'esprit du prédicateur. Oui, mais tout est vanité quand même sous le soleil. Alors comment le prédicateur en déduit-il un devoir positif pour l'homme? Eh bien, c'est parce que le devoir de l'homme, de tout homme à l'égard de Dieu, n'est pas la conclusion logique de théorie humaine, mais c'est une pratique à mettre en œuvre. La vanité de l'existence, et c'est vrai qu'elle est vaine, vous naissez pour mourir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus vain que ça? Mais la vanité de cette vie que Dieu impose à sa créature n'annule pas les devoirs de la créature envers son créateur. Voilà pourquoi le prédicateur met l'accent final sur la pratique du devoir. L'énigme de la vie est peut-être insoluble par la sagesse et par l'intelligence, mais peu importe. On résout cette énigme de manière pratique en marchant avec Dieu et en éprouvant pour lui une crainte respectueuse, en obéissant à ses commandements. Au milieu des difficultés et des injustices du temps présent, l'exhortation de révérer Dieu et donc de lui obéir, c'est notre boussole. C'est la boussole qui maintient le croyant sur le droit chemin et qui lui permet d'éviter de nombreux écueils de la vie. Le devoir d'Abraham, c'était de croire aux promesses que Dieu lui avait faites. Pour Israël, c'était de s'approcher de l'Éternel par le biais des sacrifices. Et pour vous et pour moi, c'est d'abord « crois au Seigneur Jésus » et tu seras sauvé. C'est là où tout commence. La réconciliation, l'harmonisation des interrogations et des paradoxes de la vie attend le jour où la foi, nous avons la foi maintenant, attend le jour où la foi fera place à la vue et où tout ce qui est caché sera révélé. En effet, verset 14, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Étant donné qu'ici-bas, la justice n'existe pour ainsi dire pas, chacun d'entre nous devra rendre des comptes à Dieu dans l'au-delà pour toutes ses actions bonnes et mauvaises. En fait, nous n'avons, et je n'ai que deux alternatives, soit je fais entièrement confiance à Jésus-Christ, qui sur la croix a expié mes péchés et vos péchés, soit je devrais répondre moi-même de toutes mes fautes au moment du jugement, et en particulier le jugement dernier devant le grand trône blanc. On peut certes accepter Jésus-Christ comme sauveur à n'importe quel âge, puisque tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on dit. Cependant, ce n'est pas pour rien que le prédicateur dit « Tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse. » Car c'est le meilleur moment pour choisir Jésus comme maître, car alors on a toute sa vie devant soi pour le servir, pour se constituer un patrimoine et une place au soleil dans l'au-delà. Parce que les deux existent, autant le patrimoine, le compte en banque et la place au soleil. Tout ça existe dans l'au-delà. Après avoir étudié l'Ecclésiaste, on reste quand même sur sa fin parce qu'il n'existe pas de réponse aux problèmes vexants de la vie sous le soleil. Les personnes consacrées à Dieu qui souffrent, comme Gérard Payon par exemple, que je suis allé voir, ou qui meurent à petit feu, toujours comme lui, un enfant qui meurt tragiquement ou de maladie, il n'y a pas de réponse. Ce livre demande une réflexion nouvelle et nous en avons une partielle dans le Nouveau Testament qui présente le Christ comme l'unique solution au problème de l'homme. Jésus a dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Voilà un livre à méditer. Je vous encourage à le lire dans sa totalité parce qu'il vaut vraiment le détour. Et puis, c'est un bon livre pour témoigner. D'ailleurs, le suivant, le Cantique des Cantiques, est aussi un bon livre pour témoigner parce qu'avec ce livre-là, vous pouvez choquer les gens. Et vous leur dites, voilà ce qui est dans la parole de Dieu. Mais un prédicateur ne peut pas prêcher sur le Cantique des Cantiques parce qu'on le couvrirait de goudron et de plumes, tandis que l'Ecclésiaste, oui.
Bonjour à chacune et chacun. Merci pour ce qui a été partagé ce matin. C'est vrai que ce chapitre 12 de l'Ecclésiaste me parle beaucoup puisque... Demain, mon papa va fêter ses 96 ans. Et les week-ends où je m'absente de parmi vous, c'est que parce que je vais remplacer mon frère à ses côtés. Et je peux vous dire que ce qui est écrit dans Ecclésiaste 12, c'est juste. Il n'y a même pas tout. Mais c'est peut-être mieux comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que mon papa, qui est croyant, eh bien, il garde toujours au fond de son cœur cette joie. Cette joie, je crois que je l'ai vu toujours, qu'il a toujours animé pendant toute sa vie que je l'ai connu. Et malgré l'âge très avancé, ben, cette joie est toujours là. Et ça fait plaisir de le voir dans cette joie qui est toujours présente jour après jour. Alors, les annonces maintenant. Depuis cette semaine, il y a un nouveau conseil. Donc Jean-Paul a pris sa retraite. Merci, encore un grand merci Jean-Paul. Donc juste un petit rappel, nous sommes quatre anciens, donc il y a Pierre Richard, John Winston, Raymond Zbinden, qui est encore à l'hôpital ce matin, et moi-même. Maintenant je vais laisser la place à John, puisqu'on a eu une rencontre de membres mardi par rapport aux dons qui ont été faits.
Oui, on voulait informer un petit peu toute l'Église et en particulier les personnes qui n'étaient pas là mardi soir un petit peu pour savoir ce que l'Église fait un petit peu avec l'argent qu'elle collecte. Parce qu'en fait, nous sommes une Église qui est très riche. On a très peu de frais fixes pour faire tourner notre Église. Donc on a toujours eu un certain montant d'argent qu'on pouvait utiliser pour des projets pour nous-mêmes, mais aussi pour donner. Donc cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est retrouvés ensemble mardi soir pour dire « Voilà ce que nous avons décidé de donner et à qui est-ce que nous allons le donner ?» Et en fait, ce qui est arrivé aussi, c'est que l'année dernière, on n'avait pas donné tout ce qu'on avait prévu de donner. Donc cette année, on se trouve dans une situation particulière qui est que nous avons presque 35 000 euros que nous avons décidé de donner pour soutenir différents ministères. Donc, mardi soir, après avoir consulté un petit peu différents membres de l'Église et tout, on a une liste de projets que nous avons décidé que, Dieu voulant, si nos dons suivent cette année, nous pourrons soutenir. Alors, nous avons décidé de les lister là-bas au fond, vous trouverez une liste qui décrit un petit peu à qui nous allons le donner, mais aussi quel est le ministère qui va être soutenu, et puis quel est le montant que nous nous proposons aussi de donner cette année, c'est-à-dire en utilisant ce qui nous restait de l'année dernière et ce que nous pensons que nous pourrons collecter cette année par nos offrandes et donner. Donc c'est quand même un montant relativement important. Nous espérons dans les semaines qui viennent aussi pouvoir donner plus d'informations sur notre site pour que vous puissiez voir un petit peu non seulement qui est la personne derrière ou l'organisation, mais aussi le ministère qui s'exerce par nos dons. Et puis juste à côté aussi, parce que cela nous a été demandé aussi, parce que cette année on est en train de faire un effort assez important sur le plan de nos finances pour pouvoir remettre aux normes nos locaux, mais en même temps ne pas baisser ce que nous voulons donner à l'extérieur. Nous avons mis aussi un graphique un petit peu pour dire où nous en sommes dans nos offrandes au fur et à mesure que les mois passent. Donc comme ça, vous pourrez être tenu un petit peu au courant de ce que nous faisons. Si jamais vous avez des questions sur les finances de l'Église, sur ce que nous en faisons, n'hésitez pas à venir me voir et je serai très content de vous donner des nouvelles.
Merci. Nous en arrivons maintenant au programme de la semaine. Donc, mardi, étude biblique, 20h30. Jeudi, il y a la rencontre de la pastorale à 18h. Merci de penser à cela. Merci de prier pour aussi. Jeudi, il y a aussi la chorale à 20h30. Samedi, groupe d'ados à 17h. Groupe de jeunes à 20h. Et puis dimanche, le culte des jeunes. Et puis, je vais laisser la place à Anne-Laure qui va nous donner quelques indications supplémentaires.
Donc, dimanche prochain, avec le groupe de jeunes, on va organiser une vente de gâteaux et plein de choses à manger. Alors, prévoyez un peu de sous. Ça, c'est pour se faire un petit peu plaisir, manger des bonnes choses. Et c'est aussi pour nous aider à financer notre week-end de fin d'année, parce que cette année, on va partir un tout petit peu plus loin que les autres années. Donc voilà, on va profiter du week-end de Pentecôte, où on a 3 jours pour faire un week-end un peu plus grand que d'habitude, pour passer des bons moments tous ensemble, entre jeunes. Donc voilà, alors prévoyez de pas faire un trop gros dessert pour votre repas de dimanche midi le soir. Prévoyez aussi de, si vous pouvez, amener des boîtes Tupperware ou autres cartons pour emmener tout ça, parce qu'on n'aura sûrement pas tout ce qu'il faut pour que vous puissiez ramener chez vous. Donc voilà, que vous soyez au courant de préparer un peu tout ça. Merci.
Oh, ok. Groupe de jeunes à 16h, donc. Merci, ah ben oui, eh oui. Sinon, pour la semaine d'après, juste 2 petites annonces pour qu'on puisse s'y préparer. Le lundi 14, il y aura une répétition de la chorale, mais une répétition en commun. Donc, dans le but de préparer les chants qui seront chantés pendant le culte en commun. C'est aussi l'occasion, parfois, pour certains, de se joindre à cette chorale en commun qui se fait inter-église. Mardi 15, ce sera aussi l'étude biblique pour les aînés. Je crois que pour le programme, on est bon. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Non, ça paraît d'être le cas. Alors, ce matin, on a Rachel qui est parmi nous. Ça fait vraiment plaisir de te revoir. On veut continuer à prier pour toi, à penser à toi, à te soutenir aussi dans ce que tu vis aussi dans ton corps. Raymond a été opéré aussi cette semaine, disons réopéré de son genou. Il va bien, il sort même cet après-midi. Là aussi, on veut continuer de penser à lui pour son rétablissement, que Dieu l'accompagne, qu'il pose aussi ses bonnes mains sur son corps, sur son genou. Des quelques nouvelles de Mike. Alors Mike a écrit à Jean-Paul et Lydie cette semaine. Il apprécie beaucoup les lettres qu'il a reçues. Alors, sur le panneau d'affichage au fond, il y a des nouveaux petits coupons, un par jour, comme ça. Ne vous gênez pas, prenez-les, écrivez-lui. Quand on est comme ça, en milieu carcéral, recevoir une lettre, c'est précieux. Alors, on peut vraiment non seulement prier à lui, mais on peut aussi lui écrire. Profitez-en, prenez ces petits coupons. Sur chaque coupon, il y a bien sûr son adresse, mais il y a aussi un jour. Alors, comme ça lui permet de recevoir des lettres tout au long de la semaine. Une dernière petite annonce toute pratique, toute concrète. Sur le parking, au fond, tout à gauche, il y a une voiture Seat Ibiza noire qui est là depuis plus d'une semaine. Alors, si quelqu'un sait à qui elle est, merci de nous le communiquer. Sinon, je vous invite à vous lever pour partager encore 2 versets que j'avais sur le cœur. 2 versets dans 1 Thessaloniciens 5. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre esprit, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le verset qui suit, moi qui m'encourage beaucoup, « Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. » Amen. Bon dimanche, bonne semaine.